Ça s'est passé comment? En 2007, je suis à Hanoï. Et bon, j'étais invité à Hanoï. Et j'étais donc invité aussi, donc tout était payé par la délégation Wallonie-Bruxelles. Et le chauffeur de cette délégation, à un moment, je connaissais aussi sa femme qui travaillait dans les bureaux. Et nous sommes en voiture dans Hanoï, je ne sais plus ce qu'on foutait, mais on était là. Et à un moment, je lui demande si lui et sa femme, ils ont des enfants. Et sa réponse était nette, catégorique et affusée, non, comme beaucoup de jeunes couples vietnamiens ont craint d'avoir des enfants handicapés ou mal formés, etc. Et là, je mesure qu'il y a quand même quelque chose qui se passe de plus que je ne savais. Et alors, on en parle. Et le lendemain, je me souviens, c'était 2 jours avant de revenir à Bruxelles, le lendemain, il me présente à son père et à son oncle qui ont combattu les Américains, mais qui ne sont pas contaminés. Mais pas parce qu'ils ne développent pas de maladie qu'ils ne sont pas contaminés. Et donc, je reviens à Bruxelles, et là, je mets en chasse de quelque chose. Parce que quand j'avais quitté, il s'appelle Dao, ce chauffeur, quand j'ai quitté Dao, je lui ai dit, et j'ai demandé à son père aussi, est-ce que, si je fais une émission radio, est-ce que vous acceptez de témoigner? Et donc, je suis retourné en 2009 au Vietnam, et grâce à une association, j'ai été en contact avec des victimes et des parents de victimes, j'ai pu réaliser une émission radio qui était diffusée par la RTB. Mais là, je me suis aperçu que les gens ne mesuraient pas du tout les handicaps.
Vous êtes attaché à Lien.
Mais Lien, c'était... En juillet 2009... Oui, c'est en juillet 2009. Je suis à Méline. Méline, c'était un petit patelin à côté de Hanoï. Et je vois cette môme qui me fascine. Parce que je la trouve d'une beauté quand on ne prend que son visage. Quand elle est calme et qu'elle te regarde sans te regarder. Enfin, moi, elle m'a fasciné, cet enfant. Et en plus, elle était installée dans une chaise roulante, mais absolument déglingué. Le siège était à moitié déchiré, le dossier était à moitié déchiré, et à la déléguée, à la représentante de cette association pour le Nord-Vietnam, je lui dis, écoute, tu crois qu'il y a moyen de faire réparer cette chaise? Elle me dit, je crois bien, oui. Bon. Donc je laisse de l'argent. Je laisse de l'argent pour que la famille fasse réparer cette chaise, puisque c'était insupportable à regarder. Lien est née normale. Rien n'apparaissait, du moins. La sœur de Lien, qui témoigne à le dernier témoignage à la fin, avec son môme sur les genoux, lui aussi, il est né, quasiment normalement. Et les parents peuvent bien le savoir, puisque pour cette femme, Thuy, c'est son deuxième enfant. Donc elle a déjà l'expérience du premier, qui était un môme parfait, je l'ai vu. Donc elle voit bien, à 3-4 mois, quand l'enfant doit commencer un peu à bouger, ou à ramper, ou à se mettre sur le banc, elle voit bien que quelque chose se passe. Et voilà, et cette femme âgée témoigne aussi. Ma fille, elle faisait du vélo, elle allait à l'école. Et donc, le bouleversement génétique apparaît lentement. Pourquoi? Ça, je ne peux pas l'expliquer. Ce que je sais aussi, c'est qu'à la puberté, beaucoup de choses se passent. Mais alors, c'est quand même des cas de conscience aussi. Parce que je sais que dans le Sud, j'ai pas été dans le Sud. Dans le Sud Vietnam, il y a une femme gynéco, enfin maintenant, ce sont deux, qui lorsqu'elle constate lors d'une échographie que quelque chose de très troublant est là, elle propose des avortements. Mais l'échographie coûte horriblement cher. Pour un Vietnamien, ça coûte, je crois, 1 500 $. Quand on sait que le salaire moyen, c'est 100 euros, bon, 120 euros. Et puis l'avortement. Si on prend le cas du garçon Nam, qui n'a pas de jambes. Le grand-père témoigne qu'on voulait, pourquoi tu le gardes, pourquoi tu ne le fais pas tuer, etc. Pourquoi tu ne l'euthanasies pas. Mais cet enfant sans jambes, il est parfait dans la tête. Ils n'ont pas les moyens de voir si je suis ou pas contaminé. La mère, la sœur de Lien, le dit très clairement, je n'ai pas développé la maladie, ce n'est pas pour ça que je ne suis pas contaminé. Elle l'est contaminée, puisque son deuxième fils est complètement foutu. Par ailleurs, c'est très compliqué pour les Vietnamiens. Bon, je t'aime, tu m'aimes, on va se marier. Mais si je te dis que mon père est contaminé, ou que j'ai un frère ou une sœur contaminée, tu ne te maries plus. Hein. Tu as trop peur d'avoir un enfant, toi-même un enfant handicapé. Donc, je veux dire, c'est une chaîne sans fin. D'abord, on ne sait pas quand on va s'arrêter cette monstruosité. Et deux, ça c'est juste. Alors, il y a une forme de culpabilité chez les jeunes parents, en disant, mais est-ce que je fais cet enfant ou je ne le fais pas? Et je prends le risque. Je prends le risque, à chaque fois peut-être, d'avoir un enfant mal formé. Je t'écris, petite fille jaune de Méline, belle et impassible dans ton cœur désaccordé, ravie à la vie. J'écris sur toi qui ne lira pas. J'écris pour toi qui ne peut que te taire et subir ton existence naufragée en un éternel exil. 18 ans, dit ton père, tu as 18 ans. Comment le croire? Si belle et tranquille, Liane, avec tes yeux ouverts sur une ligne d'horizon hors d'atteinte pour moi, pour nous. Tu es l'innocence massacrée, quel mot pour le dire? Pour ne pas penser au crime des conscrits se droguer au haschich, à la morphine, à l'éther, n'importe quoi. De jeunes hommes en uniforme tués et tués encore pour oublier qu'ils avaient tué. À peine sortis de l'adolescence, ils quittaient la maison familiale, envoyés dans la fournaise des bombes et de la jungle. Beaucoup de ces jeunes sont devenus fous. Pour eux, de l'empathie. Ils étaient jeunes, ne savaient pas, n'avaient pas demandé ça. Certains ne regrettent rien, devoir accompli. Es-tu sans souffrance, sans angoisse, sans joie? Es-tu cela que l'on pense de toi, Liane, petite fille mutique? C'est à hurler ce qu'ils ont fait de toi, de vous. Le crime américain vous a privé du plus beau cadeau, la vie. Liane, tu es indifférente au vol et envol des oiseaux autour de toi, aux enfants qui jouent dans la cour des voisins, indifférente aux prières et aux bâtons d'encens dans les pagodes, aux bruits et rumeurs du monde. Indifférente, est-ce le mot? Vous êtes des milliers et des milliers et des millions à souffrir encore de ce défoliant. Vous ne participez pas au chant des hommes, ni à leur rire, ni à leur passion, ni à leur haine, ni à leurs amours. La musique qui vous berce ou vous console nous est étrangère. Ce que vous accueillez dans les yeux, nous ne le voyons pas. N'es-tu que silence et absence, petite fille de 18 ans? Tu es solitude, inabordable solitude, et en cela aimable, infiniment aimable. Liane, petite fille jaune de Méline, broyée par l'agent orange, tu provoques le vertige par ton incapacité à nous rejoindre dans la vie. Nous ne partageons rien, petite fille jaune, aucune songerie, aucune fusion des sentiments. Tu es inachevée. Nous ne pouvons nous résigner à oublier la volonté criminelle qui est la cause de ta non-vie, innommables crimes américains, comme sont innommables les crimes nazis, les crimes soviétiques. Des vétérans américains qui reviennent dans ton pays, ils boivent du thé ou de l'alcool de riz avec le père ou la mère d'un enfant comme toi, Liane. Ils vous regardent dans vos chaises roulantes, abîmées, rafistolées. Ils vous regardent, endormis ou gesticulant, sur vos bas-flancs, sur une natte, silencieux ou criards. Ils vous regardent incrédules. Une question lancinante leur tord les tripes. Comment cette barbarie a-t-elle été possible? Quelques-uns restent avec vous. Je reviens à toi un moment, Liane. Ton corps nous fait mal. Ton âme se lit sur tes lèvres soudées et dans tes yeux pleins de cette âme enroulée comme une question. une âme enfouie et enfuie dans une éclipse du temps. À la nuit comme au jour, tu ne peux rien apprendre de ce qui nous est un jeu, la lecture et l'écriture, la danse et le chant. Comme je souhaite t'entendre crier ou simplement fredonner. Ta voix, as-tu une voix, Liane de 18 ans ? 40 ans. Quelle autre guerre a laissé autant de prolongements après ces années ? Placés les uns derrière les autres, tous les contaminés comme toi, Liane, combien de kilomètres représenterait cette file indienne de chaises roulantes et de bas-flancs ? Une file indienne de 4 millions de victimes. Liane, quel est ton lieu ? Pouvons-nous y entrer ? Quel est ton temps ? Pouvons-nous le partager ? Non. Tu es soustraite au lieu et au temps. Liane, ô mon enfant étrangère, tu ne m'écoutes ni ne m'entends. Tu gis dans l'ombre du temps. À qui s'adresse ton sourire venu de nulle part ? Quels aveuglements ou surdités, quel détournement de la vie pour ne rien dire à ton sujet, Liane. Petite fille jaune, pour moi, tu es devenue Méline. Ton corps cerne la ville, l'envahit. Je t'écris dans une forme d'urgence, Liane. Une urgence enracinée dans le sang et dans la terre. J'ai peur de t'oublier comme on oublie un rêve, même si je sais que je ne t'oublierai pas. Nous les bombarderons avec nos moyens aériens et navals, et non pas avec nos forces terrestres, de telle façon que les Vietnamiens régresseront à l'âge de la pierre. Il faut tuer les gens, et quand on en a tué assez, les autres arrêtent le combat. Ça, c'est le général en chef des armées américaines au Vietnam en mai 1964. C'est dingue. Poutine, un peu plus tard, à propos des Tchétchènes, il dit ben, « on va les massacrer, on ira même chercher jusque dans les chiottes ». Et Netanyahou, juste avant de lancer son massacre à Gaza, il a dit ben, « les Palestiniens vont retourner au Moyen-Âge ». Et les gens, quand ils le disent, ils le font. Voilà. Et le Vietnam a encaissé 3 à 4 fois plus de bombardements pendant ces 10 ans sur ce petit territoire que pendant toute la Seconde Guerre mondiale en Europe et en Asie. C'est 470 fois la bombe d'Hiroshima. Ça, c'est la guerre américaine. C'est fou. Ça dépasse tout entendement. C'est ça le crime le plus atroce. C'est pas d'avoir bombardé, parce que bombarder, c'est toutes les guerres. C'est que ça se prolonge et ils le savaient. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Et ils voulaient le faire. Ils voulaient détruire la forêt. Ils voulaient affamer les populations. On a des preuves aujourd'hui que avant le bombardement de Hiroshima, tout était prêt aux États-Unis pour inonder certaines grandes villes, pour détruire toute forme de culture, pour affamer les populations et réduire ce pays à néant, d'une certaine façon. Puis quand ils se sont rendus compte que quand même la guerre était presque finie, ils ont préféré faire l'expérience d'Hiroshima et de la bombe atomique. Mais même cette bombe-là n'était plus nécessaire, le Japon était par terre. C'est une pure expérimentation, comme ils ont expérimenté la dioxine au Vietnam. Mais on connaissait depuis la fin des années 30, on connaît le danger de la dioxine. Roosevelt a empêché que les troupes américaines utilisent la dioxine pendant la Deuxième Guerre mondiale, à cause de sa toxicité. Mais 15 ans plus tard, ils l'ont quand même fait. Non, mais on est sans voix. Les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre sont imprescriptibles. C'est comme les génocides. Si on trouve un génocidaire, un nazi aujourd'hui, il sera encore jugé. S'il était encore capable de comprendre, il sera jugé. Mais tous ces généraux américains devraient être jugés. Ils sont peut-être morts. Mais Kissinger, il vit toujours. Kissinger était une immonde crapule. Il a voulu utiliser la bombe atomique au Vietnam. Attends, j'ai trouvé cette phrase. C'est complètement fou. Voilà. Il dit, l'action doit être brutale, l'attaque impitoyable. Il ne supportait pas la résistance vietnamienne et donc il suggère la bombe atomique.
Il y a eu des dizaines et des dizaines de déserteurs, si pas des centaines de déserteurs américains, accueillis en Suède, accueillis au Canada, en Nouvelle-Zélande. Il y a eu le tribunal Russell, ça c'est de 67. De Gaulle a refusé que ça se passe, que ça se déroule à Paris, parce que c'est Sartre qui l'avait initié. Et De Gaulle n'a pas voulu se fâcher avec ses copains américains. Et donc la Suède a dit « Ok, vous pouvez venir le faire chez moi ». C'est pour ça que ça s'est déroulé à Stockholm. Mais donc là, tout le monde savait l'horreur. Tout le monde savait l'horreur. Moi, je me souviens, nous étions des dizaines de milliers dans les rues de Bruxelles. Une fois, on a réuni à Bruxelles plus de 300 000 personnes contre la guerre. Il y avait des comités Vietnam dans tout le monde entier. Nous étions des millions dans les rues, dans le monde, à dire non à la guerre. Que proposent les États-Unis ? À Da Nang, c'est la ville du centre. C'est là qu'il y avait la grande base américaine et c'est là qu'il y avait la plus grande concentration de dioxine en fût, etc. Donc les Américains disent on va dépenser, je ne sais pas, 500 000 dollars ou 1 million de dollars ou 2, 3 millions de dollars pour. On va essayer de décontaminer la terre autour de l'aéroport. Qu'est-ce qu'ils proposent ? On va brûler la terre à 3000 degrés. Donc on fait une expérience. Comment est-ce qu'on fait brûler la terre à 3000 degrés ? Qu'est-ce qu'on met dedans ? Donc est-ce que la terre sera plus saine après ? Je veux dire, c'est absurde. Le monde est complètement foutu, là. C'est insensé. Et c'est d'une barbarie, c'est Chomsky disait que c'est immonde, ben oui, c'est un crime immonde. Mais lui, il le disait en 62, 63. En 2009, il y a eu le tribunal d'opinion qui s'est réuni à Paris. C'est eux qui ont les premières fois parlé d'écocide. Donc un tribunal d'opinion, c'est comme un tribunal un tribunal de recel, mais enfin bon, ça n'a aucune contrainte, c'est absolument pas contraignant. Mais ce sont des juristes internationaux, etc. Eh bien, ils ont condamné tout ça pour crime de guerre, crime contre l'humanité. Et ils ont dit, mais prenons comme base le dédommagement des États-Unis de 1 milliard de dollars par an pour leurs victimes. Si on multiplie ça par le nombre de victimes vietnamiennes, combien de milliards il faut en dédommagement pour construire des centres ? Pour construire des centres, Lien. Qu'est-ce qu'elle va devenir quand son père et sa mère sont morts ? Sa sœur, son fils handicapé aussi. La dame âgée, quand elle sera morte, qui va s'occuper de ces deux ? Elle ne me l'a pas répété cette fois-ci, et je n'ai pas insisté. Parce qu'elle était trop en colère et trop émue. Mais dans l'émission radio, elle le dit. À la mort de mon mari, j'ai voulu me suicider avec mes enfants. Parce que je savais que ça allait être intenable, mais je n'ai pas trouvé, personne n'a voulu m'aider. Et c'est la question. Qui va s'occuper de ses enfants ?